Shalom tout le monde. Vous connaissez Manishtana?
Oui.
Ouais. Alors, ça veut dire, en quoi est-ce différent, n'est-ce pas? En quoi cette guerre est-elle différente des autres guerres? C'est le Manishtana des événements actuels. Laura Fartouche m'a demandé de vous parler des événements, et donc je vais vous en parler, tout simplement. Il y a une grande différence, en tout cas au niveau visible, entre quoi? Tu veux mettre la clim, c'est ça?
Hein?
Tu veux mettre la clim?
Non, c'est du
bruit. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre la clim? Oui, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est tout pour qu'on ne fasse pas de chaleur. On est déjà assez cuit comme ça. Ah, génial. Voilà, KO. Ouais. Bon, donc, où j'en étais, oui. Donc, en quoi cette guerre était différente? C'est que toutes les autres guerres, on peut les réduire, si on est réductionniste, on peut les réduire à des guerres de survie. D'accord? Nous voulons survivre, et donc nous faisons la guerre pour nous défendre, pour être tranquille, etc. La guerre actuelle est différente dans ce sens qu'elle est une guerre entre le bien et le mal. C'est ça dont il est question. Alors d'abord, analysons en quoi ceux contre qui nous luttons sont le mal. Vous savez que dans le déchaînement de la barbarie, il y a deux modes possibles. Il y a la barbarie purement sauvage. On trouve ça chez les bêtes féroces. Et il y a une autre barbarie froidement organisée, planifiée, programmée dans des bureaux avec des statistiques et des modes d'emploi. Qui n'entend pas?
Les Français.
Les Français, ils n'entendent pas?
Ouais.
Pourquoi? Ils ont les oreilles bouchées?
Ah, c'est trop loin, là.
Ah, c'est ça, bon. Et donc, comme je disais, il y a donc deux formes de barbarie, celle qui est purement sauvage et celle qui est froidement organisée. Dans le cas de la confrontation avec nos ennemis actuels, il y a eu les deux à la fois, une conjonction à la fois de barbarie sauvage, c'est d'ailleurs même... disons insultant pour les bêtes féroces de dire qu'ils étaient comme des bêtes féroces puisqu'ils étaient pires. Et d'autre part, c'était bien organisé avec des listes des maisons et des habitants et comment s'y retrouver, etc. Donc c'est programmé. Ce genre de conjonction entre la sauvagerie et l'organisation, on n'avait pas vu depuis les nazis. D'accord? Et donc on peut dire qu'il y a ici un comportement extrêmement exceptionnel et qui nous engage à comprendre que nous représentons quelque chose. Alors là, ici, un problème. Il y a ici un problème de morale. Un problème de morale, savoir comment est-ce qu'on réagit face à la barbarie, la plus sauvage. C'est ça le problème. Alors, certains vous diront, ben, c'est la même chose que d'habitude. On fait la guerre, on tue ceux qui nous combattent, on épargne ceux qui ne sont pas impliqués dans le conflit. On reste dans les conventions humanitaires habituelles. Nous pourvoyons de la subsistance à la population civile. Et on a le calme pour quelques années. Voilà. C'est comme ça que ça a été jusqu'à présent. Et c'est ça qui risque, si on fait pas ce qu'il faut, de se reproduire. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Oui.
Vous avez dit au début, vous avez la parole, vous avez dit comme quoi là, cette fois, c'était différent parce que c'est une guerre entre le
bien et le mal. Oui.
Toutes les autres guerres.
Non, toutes les autres guerres aussi ont été entre le bien et le mal. Seulement, elles pouvaient être réduites par l'observateur à une guerre simplement de survie. C'est-à-dire, l'ennemi étant comme une sorte de catastrophe naturelle contre laquelle il faut se protéger, ça serait la même chose. Mais là, c'est ouvertement que c'est conçu comme ça. Tous ceux qui jusqu'à présent pensaient que c'était simplement une guerre de survie se rendent compte que c'est une guerre de type moral. Et donc ça nous engage à quelque chose. Il est probable donc qu'Akadosh Baruch Hu attend de la part des Juifs quelque chose de particulier. Pas seulement Akadosh Baruch Hu, pour tout vous dire. Il y a dans la communauté internationale, donc là de manière diffuse et pas toujours bien formulée, mais ça existe, une attente de savoir ce que Israël va faire. Ce que le peuple d'Israël va faire, pour une raison très simple, c'est que le peuple d'Israël est un phare moral pour l'humanité. Et étant donné que l'humanité est confrontée effectivement à cette violence, parfois de manière, disons, lente, parfois de manière violente, aujourd'hui l'Europe ne sait pas quoi faire face au flot d'islamisation agressive de l'Europe, et les États-Unis ne savent pas quoi faire face à des dangers de catastrophes nucléaires comme de la part de pays comme la Corée du Nord et tant d'autres choses. Et donc les yeux sont tournés vers le peuple juif pour savoir est-ce que le peuple juif a un message particulier, une manière à lui de régler ce genre de conflit. Alors, pour bien le comprendre, à mon avis, il est important de revenir aux origines de la violence. La première fois qu'il y a une violence exercée dans l'histoire des hommes, selon la Torah, c'est l'épisode de Caïn et Abel. Génial. Je vois que vous êtes très bien informés. Et donc, c'est quoi l'histoire de Caïn et Abel? Alors, on l'étudiera d'ailleurs probablement cette année, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le texte de la Torah est très long à propos de l'histoire de ce meurtre. C'est pas un ou deux versets, il y a là-bas au moins 15 versets qui sont assez longs et dans lesquels la Torah donne énormément d'informations. Mais je voudrais m'arrêter sur un seul mot seulement. D'accord? Si vous voulez bien. Un mot. Ça suffit, un mot. Un mot de la Torah, vous savez ce que c'est énorme. Il est dit « Vayakom Caïn » et « Caïn se leva ». Le verset dans son ensemble, c'est comme ça. « Vayomer Caïn el Evel achiv » et Caïn dit à Evel son frère « Vayehi biotam basadeh » et c'était lorsqu'ils étaient dans le champ « Vayakom Caïn el Evel achiv » que Caïn se leva contre Evel son frère « Vayargeo » et le tua. Alors bon, la formulation du verset n'est pas très claire au niveau de la syntaxe. En tout cas, les Chachamim se sont demandé « Vayakom » s'il s'est levé, c'est qu'il était allongé ou assis. Nous préférons dire qu'il était allongé, étant donné que le contraire d'être debout, c'est d'être couché. Et donc, les Chachamim ont conclu dans les Midrashim que Caïn était allongé. Où est-ce qu'il était allongé? Non. Si, bien sûr, c'est dans le champ. Mais il était allongé sous son frère. Oui, c'est-à-dire que Hevel, qui était très fort, l'a plaqué au sol. Parce que quand il a vu que Caïn voulait le tuer, alors il s'est dit, bon, je vais me défendre. Donc il le jette au sol. À partir de ce moment-là, il est en état de légitime défense, il a le droit de tuer Caïn. Peut-être même le devoir. Et le Midrash introduit dans la bouche de Caïn des paroles suivantes, dit, mon frère, si tu me tues, que diras-tu à nos parents? Alors, Hevel lâche prise, Caïn se lève et tue Hevel. Alors, il faut analyser ce midrash qui est très profond parce qu'il veut dire quoi? D'abord, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, que quand Hevel entend Caïn employer son discours à lui, celui d'Hevel, avec les valeurs de Hevel, la fraternité et les parents, alors il est persuadé que Caïn a intégré le message. Donc il lui fait confiance. Ça, c'est la première erreur et ça lui coûte la vie. Deuxièmement, il est probable qu'en fait, Hevel s'est dit, si je tue Caïn, alors c'est moi qui deviens Caïn. Je deviens comme lui, je suis sauvage comme lui. Et donc il n'a pas voulu le faire. C'est une deuxième erreur. Pour une raison très simple, c'est que user de la violence contre la violence n'est pas simplement un droit, c'est un devoir moral. Il s'agit d'appliquer sur terre la justice. Et là, il y a un point très important qui divise la Torah de la morale chrétienne. Dans la morale chrétienne, qui était celle aujourd'hui qui est universellement diffusée dans le monde, et surtout dans le monde occidental, ce qu'on appelle le monde libre, la valeur morale exclusive, c'est l'amour. La justice ne fait pas partie de la morale, la justice est une nécessité, c'est un moindre mal, mais ce n'est pas une valeur. On peut dire à la limite, vous savez que pour les chrétiens, le Messie doit venir pour amener l'amour sur terre. Nous autres, les juifs, on n'a pas besoin de ça. Nous avons déjà lu dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc on n'a pas besoin que le Mashiach vienne pour nous l'apprendre. Mais si on voit dans les textes du Tanakh, le Mashiach vient pour amener la justice sur terre. Mishpat ou Tzedaka. Et donc, s'il y a un rôle messianique au peuple d'Israël, c'est effectivement ça. Et donc, je reviens ici à Caïn et Hevel. Hevel n'a pas compris que c'était son devoir de se défendre, ou en tout cas de faire ce qu'il faut pour qu'il ne soit plus attaqué. Et la Torah nous raconte la naissance d'un troisième fils. Après le meurtre, Chava a un troisième fils qu'elle appelle Chet. Et Chet veut dire fondement. Parce que Dieu a fondé pour moi une nouvelle descendance, Chatli Elohim Zera Acher, Tachat Hevel, en remplacement de Hevel, qui a rago Caïn parce que Caïn l'a tué. Et là, on peut se demander, mais si l'enfant qui vient de naître, c'est un nouveau Hevel, de même que le premier Hevel a été tué par Caïn, le deuxième aussi, à moins qu'elle ne veuille dire, ça c'est un Hevel qui ne se laissera pas tuer, que Caïn ne veut pas tuer. Et pourquoi? Parce qu'il a la voix de Hevel et les mains de Caïn. C'est-à-dire, l'homme entier est un homme qui à la fois a des valeurs et une capacité pratique sur le terrain. C'est exactement la raison pour laquelle Yitzhak, notre ancêtre, a béni Yaakov, alors qu'il ne savait pas très bien qui c'était, si c'était Esav ou Yaakov, mais il dit voilà, il a la voix de Yaakov, il a les mains de Esav, alors je peux le bénir. C'est-à-dire, l'homme entier, c'est celui qui ne craint pas l'application de la violence contre la violence. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut avoir des valeurs morales bien claires. Et il faut bien aussi comprendre quelles sont les motivations de l'adversaire. Là, je reviens un peu à l'actualité. Dans l'actualité, nous avons un cas où la perte de la vie n'est pas considérée comme une perte par l'ennemi, mais au contraire comme une récompense. C'est-à-dire, le but de ces assassins, c'est de tuer autant de juifs que possible avant de mourir en tant que shahid. Et donc, le fait que nous les éliminons est une très bonne chose en soi, mais ce n'est pas considéré par le camp adverse comme étant un échec. D'accord ? Au contraire, c'est ça qu'ils veulent. Et ils en ont des millions à proposer comme ça, donc ce n'est pas un problème pour eux au niveau du nombre. Il faut bien comprendre que du point de vue du Hamas, qui est fidèle à une certaine théologie islamique, la lutte contre l'État d'Israël, c'est une lutte contre une entité illégitime dans le Proche-Orient. Cette entité est totalement illégitime parce qu'elle a pris la place d'un territoire qui appartient, de leur point de vue, à l'islam. Et donc, ce qui pour eux est un échec, c'est de perdre du terrain. C'est la raison pour laquelle il faut, ça fait partie de la stratégie logique de l'État d'Israël, il faut pour cela dominer la bande de Gaza. C'est-à-dire, non pas parce que c'est ça qui va empêcher le terrorisme, c'est vrai aussi, mais c'est parce que c'est ça l'échec que nos ennemis ne veulent pas. Donc c'est ça qu'il faut faire. Si à tout endroit où un juif est assassiné, on construit un village juif, ça change tout, oui.
Vous dites que le but du Hamas, ce serait de conquérir des terres.
Oui.
Dans l'attaque qu'ils ont fait, par exemple, d'ordre.
Oui.
Le but, c'est de tuer des juifs, pas de tirer des terres.
Aussi. C'est-à-dire, le fait de s'emparer de villages et d'avoir des otages, ça fait partie de la conquête territoriale, de leur point de vue. Oui.
Comment leur but, ça peut être la conquête territoriale, alors que, enfin, surtout d'Eretz Israël, alors qu'il n'y a pas écrit une seule fois le mot Eretz Israël ou Jérusalem ou quelle que soit notre terre à nous, dans le Coran.
Je vois que tu n'es pas tout à fait au courant de ce que l'islam...
Non, c'est ce que j'ai entendu.
Oui, je comprends. Alors, soyons clairs. Il y a... c'est des choses qui ne sont pas enseignées. C'est très dommage parce que ce que nos dirigeants devraient apprendre, aussi bien au niveau militaire, au niveau politique, nos dirigeants devraient apprendre l'islam. C'est pas grand-chose à apprendre. Il suffit de lire quelques livres et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Le monde, le globe terrestre, du point de vue de l'islam, est divisé en deux formes de territoire. Ce qu'on appelle Dar al-Harb, Dar al-Islam. C'est-à-dire Dar al-Harb, c'est la partie du monde qui n'est pas encore sous domination de l'islam. C'est-à-dire le monde de la guerre, Dar al-Harb, la maison de la guerre. Par contre, les parties du monde qui sont déjà sous domination de l'islam, ça s'appelle Dar al-Islam, et là-bas, la halakha, de leur point de vue, n'est pas la même. C'est-à-dire, tout territoire qui un jour ou un ou l'autre a été sous domination islamique, il est interdit à ceux qui ne sont pas musulmans d'y avoir une quelconque autonomie ou une indépendance. Or, comme Eretz Israël a fait partie à un moment de la domination islamique, donc toute entité qui s'imposerait en dehors de l'islam dans ce territoire est illégitime et doit être massacrée. D'accord ? Ça fait pas, c'est ça la halakha fondamentale. Alors aujourd'hui, il y a des tentatives de réinterprétation de ces textes, mais c'est ça que dit la charia. Hein, pour bien le comprendre, oui. Alors effectivement, certains invoquent ça pour l'Espagne et également pour une grande partie de la France, puisque les Arabes ont conquis la France jusqu'à moitié. Oui, oui. Oui, elle est très bonne. Oui. Absolument. Absolument. Non seulement le courrier Gaza, mais il faut bien comprendre que par rapport à la barbarie, c'est la barbarie qui doit être appliquée. Alors, jusqu'où ça peut arriver? Qu'est-ce que, quand vous dites, oui, il faut, par rapport à eux, avoir un comportement plus dur que dans les guerres habituelles. Soit dit en passant, d'ailleurs, au niveau des lois internationales, quand une armée ou un groupe militaire emploie des civils comme boucliers, c'est un crime de guerre. Et s'il y a des victimes civiles, c'est la responsabilité incombe à ceux qui se sont servis des civils. Ça aussi, il faut le savoir. D'accord ? Maintenant, jusqu'où ça peut aller ? Je pense qu'il est très important de ne pas le dire. C'est-à-dire, il faut être respecté en tant que fou du village. Le fou du village, on fait attention. Si on sait déjà à l'avance ce qu'Israël se propose de faire, alors une grande partie de la dissuasion est perdue. Et donc, c'est important qu'on ait peur de nous. Ça fait partie du plan. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ? Bon.
Oui. Le fait qu'on attend,
non, non, absolument pas. Absolument pas. Le fait qu'il y ait actuellement une attente, c'est lié probablement, enfin, je ne suis pas toujours tout à fait informé, mais c'est probablement lié aux pressions américaines, pressions internationales. Et il est très important, là aussi c'est une épreuve importante. Pourquoi ? Je vais vous dire tout de suite. Il y a une longue histoire de relations tendues, enfin, disons, diverses, entre Israël et l'administration américaine. Et il y a eu plusieurs fois des pressions américaines. Parfois, Israël s'est plié. Parfois, Israël a tenu. À chaque fois qu'Israël a tenu contre les pressions américaines, les Américains se sont pliés. Et la première fois que ça s'est passé, comment ?
Hein ? Il y a des six jours.
Non, bien avant. Quelques jours avant la création de l'État d'Israël. Le général Marshall a averti Ben Gurion, si tu fondes l'État d'Israël, on ne sera pas avec toi. Vous vous débrouillerez tout seul. Alors tout le monde a eu peur dans le Vaad al-Eoumi à l'époque. Ben Gurion a dit, je fais ce que je dois faire. Il a compris que c'était un moment historique et donc les Américains ont accepté le fait. C'est-à-dire, le fait accompli est très important. Vous savez ce qu'on dit d'ailleurs dans certaines unités de l'armée d'Israël, dans Sayeret Matkal, on dit, il vaut mieux demander pardon que demander une autorisation. D'accord. Et donc, le fait que les États-Unis essaient d'imposer leur stratégie à eux, cela fait partie également des épreuves du peuple d'Israël. Est-ce que nous avons la stature morale qui va nous permettre de tenir à nos valeurs au moment où elles sont mises à l'épreuve ? Et ça, c'est effectivement pas toujours évident pour la classe dominante. Et la manière, disons, de faire agir les dirigeants, c'est que nous soyons bien convaincus de ce que ça veut dire. À partir du moment où la conviction est acquise dans le peuple, ça s'est diffusé automatiquement également à la tête. Et donc, c'est pour ça que je vous donne ce cours, entre autres. Vous allez me dire, oui, à quoi ça sert que de donner un cours à quelques élèves du Mahon Meir alors que c'est au président, au Premier ministre qu'il faut parler. Non, nous parlons entre nous, ça arrive au Premier ministre, vous comprenez ? Bon, au chef de l'armée et tout le reste. Ça, c'est, disons, le cadre dans lequel tout ce que nous faisons se situe. D'accord ? Oui, vas-y.
De ce qui nous est situé par rapport à ce qu'on voit maintenant, c'est une attente aussi parce que c'est par rapport à la préparation. Parce que ça, il y en a qui ont fait remarquer que ce qui retient beaucoup, c'est les otages. Que malheureusement, les otages qui sont là-bas, ils sont un peu considéré comme mort parce qu'il y a beaucoup de choses. On sait qu'il y a très très peu de chances de les sauver. Donc en gros, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi se précipiter vers l'entrée alors qu'on peut se préparer et faire ça bien, quoi.
Est-ce que tu as appris un peu le karaté? Non. En karaté, on apprend une chose très importante. C'est que quand quelqu'un te tourne le poignet et que tu es complètement paralysé parce que aïe, 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 ouille, d'accord ? Il ne faut pas oublier qu'on a une deuxième main et qu'elle peut servir à se débarrasser de l'adversaire. C'est-à-dire, l'histoire des otages, c'est exactement ça. On nous prend quelque part, d'accord ? Il faut savoir également, dans ce genre de situation, avoir un certain sang-froid. D'accord ? C'est-à-dire, ils doivent avoir peur de nous et savoir que ce qu'ils font peut leur coûter cher du point de vue de ce que nous avons comme otage. N'oublie pas ça. D'accord ? Nous aussi, nous avons des otages.
Ouais, bien sûr, mais je veux dire, c'est que, justement, ça va encore plus. Si on, entre guillemets, on ne prend pas en compte qu'ils sont des otages et qu'on agit quand même, si on prend en compte dans notre otage, alors on se précipite très bien pour les sauver. Alors, si on ne prend pas en compte ça, ben on attend un petit peu, mais c'est pas
encore mieux. Écoute, ce sont des débats qu'on doit tenir dans les cabinets militaires, d'accord ? Oui.
C'est quoi les otages qu'on a alors que les propres terroristes, on les envoie à l'hôpital des guerres ? Je vois pas c'est quoi les otages qu'on a ?
Oui, bien sûr. Nous avons, d'accord. Il y aurait une politique différente à appliquer.
Ah, mais...
Bien sûr. Bon.
Quoi,
tu parles des 6000 prisonniers que nous avons ?
Non.
Et que le Hamas exige ?
Ceux qui sont sortis.
Non. Tu parles donc des 6000. Oui ?
Non, je
parle. Vous les interrogez, ceux-là ?
Je parle des milieux, ceux qui sont sortis du Hamas.
Ah, oui.
On a pris du vivant et on a envoyé
de l'hôpital. Oui, d'accord. Bon, j'ai compris. Tu parles donc des 6000 prisonniers. Oui. Ça, donc, si vous voulez, c'est le cadre dans lequel tout ce qui nous arrive se situe. C'est une situation morale dans laquelle nous devons envisager à nouveau quelles sont nos valeurs. On appelle l'unité des valeurs entre Chesed et Din, et également savoir quelle est la nature de l'adversaire et en fonction de ça agir. Parce que sinon, on est complètement à côté de nos pompes. D'accord, d'accord. Nous avons manqué la flèche. Enfin, vous savez qu'il y a un débat dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, page Sadikret Amoudbet. D'ailleurs, nous étudierons Bezrat Hashem ce texte. Il y a un débat chez les Amoraïm, les sages du Talmud, pour savoir, c'est surprenant, est-ce que ça vaut la peine de vivre à notre époque? Vous connaissez ce texte?
Ouais.
Oui, à l'époque messianique, enfin tous les événements que nous vivons, et une grande partie disent y était velo arminé, qu'ils viennent mais que je ne sois pas là pour le voir. D'accord ? Pas tous d'ailleurs, mais une grande partie des sages de la Gemara disent nous préférons ne pas être vivants à ce moment-là. Donc ils ont prié pour ne pas être à notre époque. Leur prière a été exaucée. Ils ne vivent pas à notre époque. Nous n'avons pas prié pour ne pas vivre à cette époque, et donc nous y vivons. Ça veut donc dire que nous sommes capables de choses que les Amoraïm n'étaient pas capables de faire. D'accord ? Mais en sommes capables, c'est-à-dire que le bon Dieu nous fait confiance. Et une des raisons pour lesquelles... Alors, il y a plusieurs raisons qui sont amenées dans la Gemara. Pourquoi est-ce que notre époque est difficile à vivre ? Une des raisons, c'est celle donnée par Rabbi Yochanan. Vous connaissez ce que dit Rabbi Yochanan ? Ben si. Non, ça c'est Rav Yosef qui lui justement veut y vivre sous les crottins de l'âne du Mashiach, ça oui. Mais ce qui fait peur à Rabbi Yochanan, c'est, je vous lis ici le texte, que chez Yomar Hakadosh Baruch Hu, lorsque Dieu dira, halalu maasei adai, vehalalu maasei adai, ceci sont les œuvres de mes mains, et ceci sont les œuvres de mes mains. Et Abed Elou, Mipene Elou, comment vais-je perdre ceci à cause de cela? Vous avez compris? Non. Alors, la Guémara aussi ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe là?
J'ai une question.
Une question, oui, vas-y.
Qu'est-ce qu'on a de plus que les Amoraïm pour vivre à cette époque?
Ah, qu'est-ce que nous avons de plus que les Amoraïm pour vivre à cette époque? Nous avons des Neshamot énormes.
Donc on a une
Neshamot
plus grande que la leur.
Exactement. Ouais. Comment ?
Dans quel sens ?
Dans quel quoi ?
Dans quel sens ?
Dans quel sens ? Eh bien, dans le sens, une neshama peut être plus grande qu'une autre neshama. Ça veut dire quoi ? Une neshama, une âme, ça implique une mission. On est sur Terre pour remplir certaines missions. Plus la mission est vaste, plus elle demande de force, donc une plus grande neshama. La capacité de tenir dans certaines épreuves dépend de la grandeur de la neshama. Donc voilà, nous y sommes. Bonjour, grande neshama. Bon. Alors, la Guémara se pose la question de ce que ça veut dire « ceux-ci sont les œuvres de mes mains, ceux-ci sont les œuvres de mes mains ». Alors, il y a une interprétation, il y a une explication donnée par Rav Papa. On va voir le Papa. « Amar Rav Papa, haïnu de amre inche » C'est ça que disent les gens, c'est-à-dire il y a ici un proverbe. « Rahit venafal Torah, veazil veshadile susia biurie » D'accord ? Donc, ça explique tout. C'est en araméen parce pour que les gens comprennent. C'est pourquoi la Guémara parle en araméen, pour que les gens comprennent. Ah, vous comprenez pas l'araméen ?
Pas encore.
Bon. Alors, la Guémara dit comme ça, le taureau a couru et est tombé. Et il est allé lui mettre un cheval dans sa mangeoire. Dans sa mangeoire. Voilà. Donc c'est clair maintenant. Le taureau a couru et est tombé, et il est allé lui mettre un cheval dans sa mangeoire. Sa mangeoire. Hein ? Oui, c'est là où le taureau mange. Oui.
Donc il va manger un cheval ?
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il s'agit, je prends ici l'interprétation de Rashi, il s'agit d'un agriculteur qui possède un taureau. À quoi ça sert un taureau chez les agriculteurs ?
À labourer la terre.
À labourer, d'accord ? Le taureau, un beau jour, et quand il finit de labourer, qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne à manger, dans sa mangeoire. Mais un jour, le taureau court trop vite, il se casse la jambe. Donc il ne veut plus labourer. Il ne veut plus également se tenir debout pour manger dans sa mangeoire. Alors que fait l'agriculteur ? Il prend son cheval. Le cheval va remplacer le taureau. Et quand il finit de travailler, ben, il est récompensé, il va manger dans la mangeoire du taureau. D'accord ? Bon, et là, Rashi explique. Kesherat sachor venafal, lorsque le taureau court et tombe, ma'amidim sus mimkomo be'evuso, on met un cheval à sa place dans sa mangeoire. Ma'shelo ayarotze la'asot kodem ma'palato shel shor, ce qu'on ne voulait pas faire avant la chute du taureau. Shaya Khaviv alav shoro beyoter, parce qu'il avait beaucoup de tendresse pour son taureau. Et donc c'est un agriculteur qui est sensible, très sensible. Il aime beaucoup son taureau. Urshemitrape ashor ayom ole macharim apalato. Et lorsque le taureau est guéri aujourd'hui ou demain de sa chute, donc il va revenir. Kachelo loti suso mipne ashor. Ça lui est difficile de faire sortir le cheval à cause du taureau. Leachar sheimidosham, après qu'il l'ait placé là-bas. C'est une double sensibilité du propriétaire. Il aime son taureau, il aime le cheval. Il se dit, le cheval, il pense que c'est sa mangeoire. Maintenant, on va pas lui dire, écoute, le vrai propriétaire est revenu, donc il faut que tu quittes. C'est très embêtant. C'est ça la parabole. Et Rashi explique, car Hakadosh Baruch Hu, de même, le Saint béni soit-il. Kevan Shera Mapalatam chez Israël, lorsqu'il a vu la chute d'Israël, donc Israël, c'est le taureau. Il est beaucoup aimé par son propriétaire. Noten gidulato leumot haolam. Il donne sa grandeur aux nations de la terre, aux nations du monde. Urshechodrim Israël bitshuva venigalim. Et lorsqu'Israël fait teshuva et est libéré, kashelo leotzi umot mipnei Israël. Ça lui est difficile de faire sortir les nations pour remettre Israël. C'est-à-dire que le bon Dieu, il est extrêmement sensible. Il dit, voilà, ceux-là, ce sont les œuvres de mes mains. Mes créatures, je les ai créées. Ceux-là aussi. Comment je vais devoir choisir entre l'un et l'autre ?
Et nous avons déjà choisi une fois, pourquoi nous avons choisi une deuxième fois ?
Quand ?
Madame Torah.
Oui, d'accord, mais lors de la sortie d'Égypte, tu veux dire ?
Hein ?
Oui, mais là, et ça revient. C'est-à-dire ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte revient à la fin de l'histoire. Et c'est ça dont Rabbi Yochanan a peur. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez comment ça s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Il y a eu un cas comme ça, au bord de la mer Rouge. C'était soit Israël, soit les Égyptiens. Qui c'est qui l'a emporté? C'est Israël. Qui c'est qui s'est fait perdre? Les Égyptiens. Comment ça s'est passé? La mer s'est d'abord ouverte. Grâce à qui?
Ah, les deux, là, ils ont monté jusque-là et après.
Alors, eh bien, les Chachamim disent c'est Narchon ben Aminadav. Alors, lui, il a ouvert la mer. Qu'est-ce qui lui a donné la force d'ouvrir la mer? Et il s'est dit, l'histoire ne peut pas s'arrêter. C'est une nécessité historique qu'Israël sort d'Égypte, donc il va rentrer dans la mer pour l'ouvrir. Et elle s'ouvre. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle des faits sur le terrain. C'est-à-dire, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui va nous aider. C'est nous qui devons faire des actes pour faire avancer l'histoire. Maintenant, donc Rabbi Yochanan connaît la solution. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Hein? Il ne sait pas quoi faire. Ou bien il a peur de les faire. C'est ça. Donc, Rabbi Yochanan a peur. Nous, on est là pour faire des actes. D'accord? Ça, c'est le deuxième point.
On n'a pas le choix de faire l'acte, non?
Ça dépend quels actes. On peut se défendre tout simplement et faire un accord avec le Hamas d'échange de prisonniers et de leur donner un port pour qu'ils aient du commerce international et d'investir grâce à la communauté internationale. Si on fait ça, si on fait que ça.
Je veux dire, d'un point de vue de Torah, ça c'est nous qui sommes choisis à la fin.
Oui, mais il faut faire ce qu'il faut faire.
Et donc, il faut faire ça.
Donc, du coup, il y a eu, bien sûr, mais il y a eu un cas comme ça dans l'histoire où il a fallu le faire et on l'a pas fait. C'est le cas de Shaoul. Vous connaissez l'histoire de Shaoul? Shaoul avec Agag. D'accord? C'était pas des blagues, c'était un gag. Et lorsque Agag, le roi d'Amalek, n'a pas été zigouillé par Shaoul. Oui?
Il y a quand même une différence, c'est que Ben Aminadab, lui, il savait pas quoi faire.
Il savait très bien ce qu'il fallait faire. Il fallait ouvrir la mer.
Comment il sait que c'est vrai ouvrir la mer?
Parce qu'il comprend la nécessité historique.
Oui, mais ouvrir la mer, c'est pas évident. Je veux pas dire, oui, il y a une nécessité historique, mais...
Donc il sait ce qu'il faut faire. La preuve, c'est qu'il a su ce qu'il fallait faire. Quoi, la Emouna? Je rentre, mais pourquoi faire? Je rentre pour quoi faire? Pour me suicider? C'est-à-dire qu'il sait qu'il va ouvrir la mer. D'accord? C'est comme, vous savez, il y a un adulte qui joue avec un enfant avec une pomme. Et il dit, tu veux la pomme? Non, tu l'auras pas, etc. Que fait l'enfant? Il dit, fais la bracha, boré péri à etz. Donc, il est obligé de lui donner. D'accord? Et c'est un peu ça, d'accord? C'est un peu ce qu'on fait le jour de Kippour. Quand on fait la bénédiction, on dit, Baruch Ata Hashem, Mochel, Vesolear, etc. Donc, il est bien obligé, on va pas faire bracha levatala. D'accord? Et bon, pour revenir à... Est-ce que je disais? Où est-ce que j'en étais? Je suis en train de dire quelque chose là, vous m'avez. Hein, les?
Les? Troisième point,
Shaoul. Ah oui, Shaoul, c'est ça, Shaoul. Alors, il y a eu, bon, vous connaissez le principe, Maaseh Avot L'Semana Banim, ce qui se passe dans le Tanakh de manière générale, ce sont des archétypes de nos comportements à nous. Et nous arrivons à nouveau à l'épreuve de Shaoul. Alors maintenant, le problème, pourquoi est-ce que les événements bibliques se reproduisent? Ils se reproduisent soit pour refaire la même gaffe, soit pour réparer.
On répond en faisant la même gaffe?
Non, en ne faisant pas la même gaffe, justement. Nous sommes face à la même situation, d'accord? Et le problème, est-ce que, ça va, est-ce qu'il va y avoir réparation ou pas? Parce que quand Shaoul n'a pas fait ce qu'il fallait faire, alors il a été remplacé. C'est-à-dire le prophète lui dit, tu as perdu le pouvoir, tu seras remplacé par quelqu'un de meilleur. Alors, voilà, est-ce que la classe politique est intéressée à perdre le pouvoir? En général, non. Donc, je pense qu'ils n'ont pas tellement le choix. Ils vont être obligés de réparer la faute de Shaoul. Oui.
C'est-à-dire que quand on va dire on tue un Palestinien, on répare la faute de Shaoul?
Hein?
Ah,
un seul?
Tous? Oui. Ah, tous?
Maintenant, donc, essayons de comprendre un peu ce qui se passe dans les événements actuels. La Gemara nous dit, et c'est également amené par le Rambam, qu'il y a trois commandements qui ont été donnés aux enfants d'Israël en entrant sur leur terre. Quels sont les trois commandements? Le premier, c'est d'établir la royauté. Deuxièmement, d'éliminer Amalek. Troisièmement, de construire le Beit HaBechira, le temple. Le Beit HaMikdash. Alors, il faut d'abord comprendre, il est important de comprendre pourquoi ces trois mitzvot-là et pourquoi dans cet ordre-là. Mais tout d'abord, essayons de voir la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons déjà un État. Donc, du point de vue de ce qu'on appelle Malchut, Malchut, on y est déjà, bien qu'il y a beaucoup à réparer, mais Malchut, il y a déjà. Actuellement, nous sommes confrontés à un comportement qui est le comportement d'Amalek. Et ça veut dire que nous sommes dans la, si vous voulez, dans la charnière entre le premier événement et le troisième. Nous préparons le monde au retour de la Shekhina, ce qui va se traduire après dans le Beit HaMikdash, mais ça ne peut pas se faire tant qu'il y a le mal sur terre. Donc l'élimination du mal ici est très importante, pas seulement comme un intérêt national, c'est un intérêt universel et à la limite un intérêt d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire pour permettre la rencontre renouvelée entre Israël et le Créateur, et par le biais d'Israël avec le monde entier, eh bien, il faut d'abord en finir avec le comportement amalécite. Alors, essayons de comprendre un peu plus ce qui s'est passé lors de l'attaque d'Amalek contre Israël. La Torah nous dit, à propos d'Amalek, « Vaizanev becha kol anecheshalim acharecha ». Il a attaqué tout ce qui était affaibli après toi. Ve'ata ayef ve'yagea. Tu étais fatigué et épuisé. Ve'lo yare Elohim. Il ne craignait pas Dieu. Qui ne craignait pas Dieu? D'après Rashi, Amalek. D'après Ibn Ezra, Israël. Et la Torah dit, il faut que tu venges ça. Maintenant, qui sont les affaiblis qui étaient attaqué par Amalek? Non, Anechashalim acharecha, ceux qui étaient affaiblis après toi. Donc toi, c'est Israël. Qui sont ceux qui sont affaiblis? Hein? Qui c'est cette arrière-garde? Eh bien, alors le Midrash nous dit, il s'agit de la tribu de Dan. Pourquoi est-ce que la tribu de Dan pouvait être attaquée? Parce que les Danites pratiquaient l'idolâtrie en sortant d'Égypte. Hein? Ils sont. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça, c'est, il faudrait que je donne un cours entier sur la tribu de Dan. Mais le point qui est important ici, c'est que les Danites pratiquaient l'idolâtrie. Ils avaient avec eux une idole qui a traversé la mer Rouge avec eux. Vous comprenez ? Et donc, c'est la partie qui est affaiblie et qui n'est pas protégée par les nuées de gloire. C'est-à-dire qu'il y avait des nuées qui protégeaient les enfants d'Israël, mais eux étaient rejetés par la nuée. Et donc c'est eux qui ont été attaqués par Amalek. Et le Midrash dit le comportement d'Amalek était très grave. Il mutilait les Danites. C'est-à-dire non seulement il les tuait, mais il les mutilait. Il jetait leurs membres virils au ciel, enfin, truc absolument incroyable. Et donc, des comportements totalement sauvages. Et alors, Moshe dit à Yehoshua, « Bechar lanu anashim, prends avec nous des hommes, vetse ilachem ba'amalek et sors pour lutter contre Amalek. » Quoi sortir? Sortir d'où? De la nuée. C'est-à-dire, le but de la guerre contre Amalek, c'est de sauver ceux que tu penses mettre à l'extérieur. C'est-à-dire, l'épreuve d'Israël, c'est l'épreuve de la fraternité. Est-ce que tu es prêt à être le frère de celui que tu n'aimes pas? C'est ça dont il est question. Et on voit d'ailleurs qu'après, lors de la construction du Mishkan, le lieu de la résidence, donc de la providence divine parmi les hommes, il est construit par deux architectes. L'un qui s'appelle Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Yehuda, et l'autre c'est Aholiab ben Achisamar de la tribu de Dan. Et la Gemara nous dit, il n'y a pas de meilleure tribu que celle de Yehuda. Il n'y a pas de plus mauvaise tribu que la tribu de Dan. Et on ne peut amener la Shrina sur terre que s'il y a collaboration entre eux. Il faut les deux. D'accord? Et donc, il est important de comprendre que contre Amalek va nous obliger à l'unité. Et ça, ça m'amène à une grande question. De savoir, est-ce que les événements que nous vivons aujourd'hui ont été annoncés ou non par les prophètes? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, la preuve, c'est que je vous pose la question. C'est-à-dire que je veux vous montrer que c'est écrit dans les prophètes. D'accord? Mais dans quel prophète? Zechariah, comment vous savez? J'ai déjà fait un cours quand ça? Ah, sur YouTube, d'accord. Donc, en fait, ça sert à rien, tout ce cours que je vous donne. Non, ça sert à rien, puisque vous savez ce que j'ai déjà dit. Hein?
C'est
1 minute. Alors, on va faire 2 minutes. D'accord? On va faire 2 minutes. C'est pour ça que vous avez ici le livre de Zechariah. D'accord? Le livre de Zechariah. Dans quel chapitre, alors? Très bien. Au chapitre 11, au verset. Ah, ça, j'ai pas dit. Bon. Alors, il est question... Il est question dans le livre de Zechariah d'une situation très grave à la fin de l'histoire dans laquelle la fraternité entre les enfants d'Israël est brisée. Et une partie de la population dit à l'autre, tu n'es pas mon frère. D'accord? Et je ne sais pas si vous êtes au courant un peu des événements de la société israélienne ces derniers mois, effectivement, c'était ça dont il était question. Est-ce que nous sommes, oui ou non, des frères? Est-ce que nous faisons la guerre ensemble ou pas? On voit aujourd'hui que ce qui nous a réunis, c'est une menace de l'extérieur. Et cette menace de l'extérieur implique la communauté internationale. Et là, le prophète nous raconte que Dieu lui dit de prendre 2 bâtons. Le premier, ça j'en ai pas parlé donc. Le premier bâton, les 2 bâtons s'appellent Noam et Chovlim. Noam, c'est dire l'agréable, Chovlim. Celui qui... Comment? De Noam et Chovlim?
Ouais.
Noam, j'ai pas mentionné.
En fait.
Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est bon. Bon. Vaekar et makli et Noam vaegda oto. Et j'ai pris mon bâton, Noam, et je l'ai brisé. Lehafer et biriti asher karati et kol ha'amim pour profaner, ou pour transgresser mon alliance que j'ai conclue avec les nations. C'est-à-dire, arrive un moment de l'histoire où les nations seront jugées. Et donc, ça va barder avec les nations. D'accord? Et après, plus loin, Vaegda et Makli Hacheni. Et alors, j'ai brisé mon 2e bâton, et Achovlim. Lehafer et Achva, Ben Yehuda ou Ben Israël, pour profaner la fraternité entre Yehuda et Israël. Et donc, arrive un moment de l'histoire où ce qui est mis en question, c'est la fraternité. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, qui est la formation de l'identité d'Israël, s'achève sur une histoire très longue de frères qui sont prêts à s'entretuer et qui finalement font la paix. D'accord? C'est donc ça, probablement, le projet d'Israël à la fin de l'histoire, de réussir la fraternité. Si on y réussit après avoir voulu s'entretuer, alors on est capable de l'enseigner au monde entier. Et dans le chapitre 12, arrive une guerre. Et dans cette guerre, il y a 2 camps au sein d'Israël. L'un qui s'appelle Aloufé Yehuda, les généraux de Judée, et l'autre qui s'appelle Yoshevei Yerushalayim, ceux qui résident à Jérusalem. Et donc ils ont des idéologies différentes. Alors, au moment où les nations arrivent pour assiéger Jérusalem, alors il est dit la chose suivante, Bayom Ahu, non pardon, Ve'ameru Aloufei Yehuda Belibam. Alors les généraux de Yehuda se diront en leur cœur, Amtsali Yoshevei Yerushalayim, sois avec moi, habitants de Jérusalem. C'est-à-dire, il demande aux habitants de Jérusalem de bien vouloir venir participer à l'effort militaire. Les habitants de Jérusalem, donc, semblent ne pas tellement être intéressés à participer à l'effort. D'accord? Et ils disent, mais venez à nous, Amtsali Yoshevei Yerushalayim, Bashem Tsevaot Elohehem, par le Dieu des armées qui est leur Dieu. Ça veut dire que les généraux de Yehuda savent que les habitants de Jérusalem ont confiance dans le Dieu des armées, mais eux non. Ils disent Elohim, leur Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux secteurs dans la population, ceux qui font confiance en Akadosh Baruch Hu et ceux qui font confiance en leur armée. Et qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va gagner? Intéressant. Bayom Ahu, en ce jour. Asim et Aloufé Yehuda, Kikior Esh Be'etzim. Je ferai des généraux de Yehuda une flamme de feu dans le bois. Uchlapid Esh Be'amir, comme une torche de feu dans la meule. Ve'achlu Aliamin Valsemol et Kol Amim Saviv. Ils détruiront à droite et à gauche les peuples autour. Donc qui c'est qui fait la guerre finalement? Les généraux d'Yehuda, ceux qui n'ont pas confiance en l'Éternel des armées. D'accord? Ils luttent à droite et à gauche. Droite et gauche, dans la Bible, c'est le sud et le nord. C'est-à-dire c'est une guerre à deux fronts. D'accord? Toutes les nations autour. Ve'yasheva Yerushalayim od tachtea b'Yerushalayim. Et Jérusalem restera encore à sa place à Jérusalem. C'est-à-dire ils n'auront pas participé. Voshia Hashem, et Dieu sauvera, et Ahole Yehuda Barishona, les tentes de Yehuda en premier. Les man lotigdal tiferet be David viteferet Yoshev Yerushalayim al Yehuda. Pour que il n'y ait pas de plus grand honneur aux habitants de Jérusalem sur Yehuda. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu donne un cours, une leçon aux habitants de Jérusalem. Ceux qui vont gagner, c'est ceux qui n'ont pas confiance en moi. D'accord? C'est écrit, hein? C'est pas moi qui le dis. Bayom Ahu, Yagen Hashem Be'ad Yoshev Yerushalayim. En ce jour, Dieu protégera les habitants de Jérusalem. Vaya Nirshal Bahem Bayom Ahu, que David. Et le moindre d'entre eux sera en ce jour comme David. Ouvet David et la maison de David, qu'Elohim, comme des dieux, qu'Emalach Hashem Lifneem, comme un ange de Dieu devant eux. C'est-à-dire qu'il y aura un surplus de spiritualité qui habitera les habitants de Jérusalem. Ve'aya bayom ahu, et en ce jour-là, avakesh le'ashmid et kol agoim abayim al Yerushalayim, je projetterai de détruire toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a ici, simultanément, une épreuve au sein du peuple et une épreuve par rapport à l'extérieur. Et les deux sont réglés en même temps. Oui?
C'est un lien avec le nom de l'opération que les Arabes ont donné.
Je ne sais pas comment ils ont appelé ça.
Ils ont appelé ça Déluge de l'Aqsa ou quelque chose comme ça.
Déluge de l'Aqsa?
D'Al-Aqsa. Pour les
confrontés dans l'Aqsa. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui.
Est-ce que ça a un lien avec
le... J'en sais rien, moi. Je ne fais que lire les textes. Je connais pas l'actualité. Veshafarti al Bet David v'Yoshev Yerushalayim ruachen v'tachanunim. Et je déverserai sur la maison de David et ceux qui habitent à Jérusalem un souffle de grâce et de supplique. Veibito ela et asher dakaru. Ils regarderont vers moi celui qu'ils auront transpercé. Veisafdu alav kemisped alayachid. Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ve'amer alav ke'amer alabechor, ils seront en amertume comme on est amer pour la perte d'un premier-né. De quoi s'agit-il? Qui est celui-là qui est tué? Les Chachamim ont dit, dans la Gemara, dans le traité de Souka, qu'il s'agit du Mashiach ben Yosef. C'est quoi le Mashiach ben Yosef? Le Mashiach ben Yosef, selon les interprétations du Gaon de Vilna et du Ramchal, c'est le sionisme politique. C'est-à-dire, quelque chose aura été perdu dans le projet du messianisme joséphique. Bayom ahu yigdal amispet birushalayim. Et en ce jour, grande sera la lamentation à Jérusalem, kemispet adadrimon bebikat megidon, comme les lamentations d'Adadrimon dans la vallée de Megidon. Adadrimon était un général syrien, effectivement. C'est celui qui a tué Achav.
Ouais.
Et Bikat Megidon, dans la vallée de Megidon, Megidon c'est Megiddo, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est là que Yoshiyahu, le roi de Juda, a été tué par le pharaon, Nekao. D'accord? Et donc, il y a ici une lamentation qui est liée à la perte de l'unité qu'il y avait entre Yehuda et Israël, entre Achav et Yoshiyahu, Et donc, il comprend, le peuple comprendra qu'il a fait une énorme gaffe en étant divisé. Et, mais c'est, alors, la suite surprenante. Vesavda haaretz. Alors, le pays se lamentera. Mishpachot, mishpachot levad. Chaque famille sera à part. Mishpachat be David levad unchem levad. La famille de David sera à part et leur femme à part. Mishpachat ben Nathan levad. La famille de Nathan. Nathan, drôle de nom. Sera à part et leur femme à part. Mishpachat bet Levi levad unchem levad. Mishpachat Hashimi levad unchem levad. Donc, kol ha-mishpachot anisharot, toutes les familles qui resteront, mishpachot, mishpachot, levad. Chaque famille sera à part. Ça veut dire que, unchem levad, leur femme à part. Ça veut dire que chaque secteur de la société se lamente pour lui-même, ne cherche pas à connaître l'autre. D'accord? C'est écrit, hein? C'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura une transformation de l'identité, il y aura un retour de la pureté. Bayom ahu, en ce jour, yemakor niftach levet David ul yoshve l'Yerushalayim l'chatat ul nida. Une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem pour expier et pour purifier. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y aura plus d'idolâtres. Il n'y aura plus non plus de prophètes, il n'y aura plus non plus de souffle, d'esprit d'impureté. Tout ça c'est écrit, hein, je vous lis ça un peu rapidement. Et finalement, on arrive au chapitre Yud Dalet, au Beth Amikdash, et les nations qui viennent se prosterner lors de la fête de Sukkot dans le Beth Amikdash. Donc vous voyez que c'est assez intéressant de voir que les prophètes avaient des intuitions intéressantes. Est-ce qu'ils savaient exactement le détail des opérations? Certainement pas. Les prophètes ne savent pas la signification précise des prophéties qu'ils donnent. C'est Maïmonide qui le dit. Il dit « Dvarim ele stumi mem etzel hanevim ». Ce sont des choses qui sont énigmatiques chez les prophètes, c'est-à-dire chez les prophètes aussi. Ils ont un message, la manière dont ça se réalise dans l'histoire, ça dépend de la réalité. D'accord? Ah donc, est-ce que les prophètes ont parlé de notre époque? Peut-être. Ça veut dire en tout cas que les événements que nous vivons sont une potentialité d'accomplissement de ces textes. Oui.
Le Sénier d'aujourd'hui n'est plus le même qu'on avait à l'époque.
La quoi?
Le Sénier d'aujourd'hui,
oui,
n'est plus le même que celui qui remonte à Théodore Herzl et tout ça, non?
Il y a des évolutions, évidemment, c'est normal.
En bien ou en mal?
Peu importe. Est-ce que passer de l'adolescence à l'âge adulte, c'est un bien ou un mal? Ce sont des évolutions. Non, ce sont des évolutions. Les évolutions ont leurs avantages et leurs désavantages aussi. D'accord? Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.